Retour alors vers la coprésidence de Lire et Écrire, Eric.
Rassure-toi, à mon avis, on est tous schizophrènes, mais je suis psychologue de formation,
ah,
si
voilà.
Ça te rassure.
Moi, je suis économiste de formation, voilà.
Mais ça ne va pas m'aider. Hein. Bon, évidemment, mais la première réaction, c'est que, voilà, on a tous évidemment bien perçu que l'Europe était un projet plus qu'en construction, enfin, et qui était soumis à, dès le début, sur des principes très libéraux, de libre-échange, voilà. Et qu'on est loin d'avoir ni un budget d'un État digne de ce nom, ni les institutions d'un véritable, d'une véritable Union européenne, et qu'on est dans une espèce de... Alors, syndicalement, on a l'impression que ça fait partie aussi d'un projet, de ce projet néolibéral, que ça participe en tout cas, c'est en tout cas le véhicule d'une certaine idéologie qui nous tombe du ciel, là, du ciel, c'est plutôt des institutions. Mais bon, qu'importe, je pense qu'on doit tous adhérer à ce projet européen et essayer d'en sortir, comme l'État social actif, il faut en sortir par le haut, on ne va pas faire marche arrière, on ne va pas revenir à la Belgique de papa, enfin,
on en est. Elle n'est pas moins libérale.
Elle n'est pas moins libérale. Elle n'a pas été. Je ne pense pas que nos parents et grands-parents ont vécu des moments toujours extraordinaires. Mmh. Certainement pas du côté de ta famille. Et donc, il faut peut-être voir les choses dans les rapports de force. Donc, ce que tu dis, évidemment. L'autre marque, j'étais justement en train de lire un ouvrage historique belge sur l'entre-deux-guerres. Juste avant 36, vous savez, 36, c'est un petit épisode de retour de la gauche au pouvoir et où il y a eu quand même des avancées sociales, le temps de travail, les vacances, enfin plein de choses. Juste avant, effectivement, il y avait un constat général, y compris dans les grandes institutions bancaires, que l'hyper-austérité de l'époque n'avait pas d'avenir et qu'il fallait réinvestir. C'est comme ça qu'on a vu des gens de gauche, comme Keynes et tout ça, ou Roosevelt, proposer un autre projet économique et social. Peut-être que c'est un signe positif. Mais ça ne se fera pas, évidemment. La deuxième allusion avec 36, c'est que 36, en France, c'est à travers le Front Populaire, c'est des grèves générales. Voilà. C'est-à-dire que ce sont dans l'histoire, ce sont les rares grèves générales qui se traduisent par de grandes avancées sociales. Généralement, les grèves générales, les avancées sociales, on les compte dans la décennie qui suit. Les grèves de 60, elles se terminent par un échec, mais bon, effectivement, il y a eu tout un contexte d'avancées syndicales et sociales évidemment importantes par la suite, mais sur le moment même, qui sont terminées en février 61, dans le drame, dans l'échec. Bon, voilà, donc ce sont des petites allusions, des échos. Évidemment, pour notre mouvement Lire et Écrire, je pense que ça doit nous convaincre d'investir le champ européen, même si c'est très loin de notre réalité quotidienne et des hommes et des femmes à qui on essaye de proposer un devenir un peu plus positif. Évidemment, leur parler de l'Europe, je suis pas sûr que ça va les arranger dans leur quotidien. Mais comme mouvement, je pense qu'on doit vraiment, et Lire et Écrire s'y est déjà attelé. On doit continuer, et j'espère que là-dessus, enfin, je sais qu'on a ton soutien, le soutien de Claude et d'autres. Maintenant, on a quand même un petit problème pour le moment. Parce que c'est difficile je pense qu'on va être d'accord très fort ensemble sur ce projet européen, les rapports de force qu'on doit constituer au niveau syndical, au niveau associatif. Hein, et Lire et Écrire participe d'une certaine manière au mouvement syndical, en tout cas au mouvement ouvrier, ça c'est notre ADN. Donc voilà, ça c'est clair. Mais j'ai parfois peur que cette Europe, à travers ces espèces de compromis schizophrènes, entre d'un côté un semestre social qui est bien clairement néolibéral, et en soi la mesure pourrait être acceptable, c'est ce qu'on y met dans ce semestre social, enfin, qu'il y ait une gouvernance économique et sociale européenne, que les États membres soient obligés de rendre compte de leur politique à une autorité européenne, en soi, je pense que c'est sans doute une bonne chose. Le problème, c'est que c'est sur base de ces fameux critères d'austérité, donc pas de déficit, on peut plus investir. Je pense que dans la réflexion, j'ose espérer que la Banque mondiale et autres ont aussi l'idée qu'il faut quand même des politiques de relance, qu'il faut réinvestir dans l'industrie, dans l'environnement, plus que dans l'environnement. C'est une forme d'industrie, et c'est une industrie qui fait des dividendes multiples positives. Hein. Donc, tout ça, c'est que dans ce compromis actuel qui n'est pas le bon, qui est un compromis de droite, hein, entre des mesures dures économiques, budgétaire d'austérité, avec un démantèlement d'une série de nos instruments et sans véritable alternative, on nous propose, on nous balade, hein, c'est un peu l'impression, mais tu ne dis pas autre chose, on nous balade avec la garantie des compétences. Ah oui, mais effectivement, ça ne va pas suivre. Et puis en plus, c'est mélangé dans un verbiage un peu compliqué, compétences, tout ça. Et puis, on a parfois l'impression que il y a quelque chose encore de plus vicieux derrière, et j'ai arrivé à quelque chose qui préoccupe pour le moment un dossier européen très pointu et très technique, c'est le problème des données sensibles, c'est que j'ai l'impression qu'aussi ça participe d'une approche de la question sociale à travers des couches dangereuses. Mmh. Et que les chômeurs, les analphabètes, tout ça finalement, ce sont des couches dangereuses qu'on ne sait pas très bien, et donc on s'est retrouvé, nous, dans un dossier très concret dans la programmation européenne actuelle, à devoir fournir des données sur très très dites sensibles, hein, c'est bien mis, données sensibles. Votre femme, elle travaille, votre mari, il a un revenu, vous êtes alcoolique, vous ne serez pas un peu rom, à peu de hasard, enfin voilà, je fais juste un peu la caricature, vous n'avez... Donc voilà, et j'ai l'impression que tout ça part de bonnes intentions. On dit on veut aider. Alors, il y a deux choses à ça, deux réflexions critiques, hein, fondamentales à ce type de dérive de l'état social actif qui veut, tu te souviens bien, que dans l'employabilité, l'adaptabilité, la flexibilité, il y avait aussi la traçabilité. Ça a été retiré dans je ne sais plus quel conseil européen de la fin des années 90 parce qu'il y avait une histoire de vache folle et aussi d'armes. Hein, il y avait le problème d'armes. Et on parlait de traçabilité sur les vaches et sur les armes, et donc utiliser ce concept pour les travailleurs, c'était pas tendance. Mais la notion de traçabilité est bien opérante aujourd'hui. On essaye de tracer, mais quelque part dans cette approche donc de l'individu en essayant de le marquer, il y a un processus de stigmatisation. Et aussi, on donne un message à la personne, tu es tout seul, on sait qui tu es, on commence à te... et on va te suivre, et si tu ne te confortes pas à un certain profil, tu vas être sanctionné. Et ça, c'est ce qui est en œuvre dans les politiques d'activation actuelles. Donc ça, c'est une critique quand même. Et la deuxième qui participe de la même chose, et ça c'est un vieux débat de la gauche, entre l'assistance et l'assurance. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Europe n'envisage la question sociale que dans une logique d'assistance. Ça revient au même. Je veux dire, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on va aider les pauvres, on va aider les migrants en les présentant comme des gens d'un lumpenprolétariat. Ce qui, voilà, une réflexion. J'aimerais bien peut-être après sur autre chose, mais c'est beaucoup.
Je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, sur. La question de l'assurance et de l'assistance, on parle maintenant de plus en plus de lutte contre la pauvreté et non plus de politique pour l'égalité. Et donc c'est vraiment cette logique, il y a deux logiques qui viennent sur la table aujourd'hui, c'est à la fois la logique d'assistance en disant, voilà, ceux-là, on va pouvoir mettre le minimum de budget possible pour faire de la... une espèce de charité, et puis pour le reste, c'est la logique du mérite, c'est si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. Et donc, une individualisation extrême de la responsabilité, et ça va de pair avec le démantèlement syndical, parce que tant le syndicat représente l'approche collective de la négociation, autant ici, il rentre dans une logique individuelle de la responsabilité. Et ces deux logiques vont de pair, évidemment, avec une pression énorme sur les personnes. Donc c'est là-dessus qu'on doit... il ne faut pas se laisser balader. On doit, dans les balades qu'on nous propose, être attentif et faire passer nos messages. Parce que si on dit « oui, mais c'est de la balade, j'y vais pas », mais c'est que les messages qui sont les messages ultra-libéraux qui passent. Donc il faut être parti de la balade. On ne peut pas faire autrement. Mais en même temps, il faut se servir de là pour revenir sur le discours qui est un discours structurel, en fait, et de dire, structurellement parlant, il faut changer les choses. Et on doit jouer sur les deux registres. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on fasse une balade de la garantie jeunesse. Si en même temps, structurellement, on dit, on va travailler de manière structurelle sur tous les jeunes, et pas uniquement sur une partie des jeunes qui sont les jeunes les plus loin de l'emploi. Structurellement, on travaille sur tout le monde. Puis, on peut faire une balade peut-être plus approfondie avec d'autres outils sur autre chose. Mais on doit pouvoir garder ce message sur le côté structurel. Et aujourd'hui, le message sur le côté structurel, ben, il est... on ne l'a pas entendu jusque maintenant. Il va falloir vraiment qu'on soit beaucoup plus exigeant là-dessus. Jusque maintenant, sur le côté structurel, ça a été le traité budgétaire, 3%, 60%. 3% de déficit, 60% de dette. Ça, c'est le débat structurel. Maintenant, nous, on essaie de rentrer dans ces recommandations en disant, ben, vous savez, s'il n'y a pas des structures pour la garde de l'enfance, ben, c'est compliqué d'avoir des taux d'emploi des femmes, par exemple. Et donc, il faudrait que dans les moyens qu'on octroie dans les États membres, il puisse y avoir des moyens spécifiques sur la question de la garde d'enfants. Et ça ne devrait pas être compté dans les déficits, par exemple. Et donc, c'est vraiment le travail qu'on doit instiller au niveau de politique structurelle de l'Europe. On est peut-être à un moment, c'est pour ça que je dis c'est assez paradoxal, parce que le moment où les gens s'éloignent le plus de l'Europe, c'est peut-être le moment où on a le plus de capacité de faire passer ce type de message à l'Europe, parce qu'ils sont au bout de la corde. Donc c'est maintenant qu'il faut les faire passer, c'est maintenant qu'il faut avoir une pression politique, je dirais progressiste, parce que j'ai pas envie de plein de gens qui ont plus envie de parler de droite gauche, moi je pense que c'est fondamental. Mais quand on est à l'Europe, c'est compliqué, parce que je parlais tout à l'heure des Roumains. Vous savez, les Roumains, ils ont l'impression qu'ils se sont libérés, enfin, ils se sont libérés du joug communiste. Et donc, quand vous dites de gauche, c'est communiste. Et communiste, c'est une histoire qu'ils n'ont plus envie d'entendre. Pourtant, c'est des progressistes. Et donc, il faut utiliser en sémantique au niveau de l'Europe, on doit être un peu plus nuancé dans notre approche, parce qu'on a tous des histoires différentes. On a vraiment tous des histoires différentes et on peut pas aller de front, parce que autant moi les luttes collectives font partie de notre ADN génétique ici, en disant ça a été des luttes porteuses de plus, autant le collectif chez certains de nos partenaires européens a été porteur de moins. Et donc si moi je dis ouais, le collectif c'est génial, ils me regardent en disant ah ouais, viens que chez moi et tu vas voir. Et donc on doit un peu nuancer la manière dont on dit les choses, mais en même temps c'est des progressistes, et donc on doit pouvoir fédérer ces progressistes et pouvoir être beaucoup plus on ne doit pas perdre l'espoir de changer cette Europe là sinon il faut faire marche arrière et dire on revient aux nations, mais c'est pas la solution. Enfin, je veux dire, il suffit de voir la nation belge. Est-ce que c'est la solution? Ben non, enfin, c'est pas la garantie en tout cas. Ça peut être la solution dans certains cas.
Il y a des points de non-retour parfois.
Il suffit de regarder en Grande-Bretagne, le point de non-retour, ça a été de se sortir de l'Europe. Je ne pense pas que les populations qui ont voté pour le Brexit et qui étaient les populations les plus fragiles sont celles qui vont gagner. Et donc c'est ça un peu toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui les populations les plus fragiles qui en ont par-dessus le nez, ils n'en peuvent plus, ils ont tendance à aller vers ce rejet, mais en même temps c'est ceux qui payent le plus cher ce type de rupture, en fait. Et donc nous, en tant que progressistes, c'est ça qu'on doit essayer d'éviter, c'est de faire en sorte que ceux qui sont déjà dans des situations difficiles ne paye davantage ces situations par une réalité de rupture. Mais c'est un discours qui est difficile à tenir. Enfin, moi, je peux vous dire que tous les soirs, ce soir, je vais à Verrier, tous les soirs, moi, le retour que j'en ai, c'est à quoi ça sert? Tous les jours, tous les gens qu'on rencontre, je n'ai pas entendu une seule personne qui me dit « j'y vais, waouh, wow, c'est magnifique ». Non, tous les gens que je rencontre disent non, on n'a pas envie de ça. Alors je dis moi non plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour se fédérer, faire en sorte qu'on puisse changer quelque chose? C'est un peu la stratégie qu'on doit avoir. Et je trouve qu'avec les organisations d'éducation permanente, c'est ça qu'on doit faire. Moi, j'ai rencontré le réseau de lutte contre la pauvreté avec Christine Mailly qui est venue au Parlement. C'était dur, parce que c'est vraiment... vous les voyez, c'est des personnes qui, au quotidien, sont d'une vulnérabilité à fleur de peau. Et donc, venir parler du projet européen à des personnes qui sont à fleur de peau écorchées, c'est dur, mais on doit se confronter à ça. C'est trop facile de le faire dans une salle de commission au Parlement. C'est trop facile. On doit le faire, mais on doit aussi aller se confronter à ça.
Je propose qu'on élargisse, oui, voilà, la discussion. Sentez-vous bien à l'aise de poser vos questions, et puis on reviendra alors. Guy, tu disais que tu avais encore l'une ou l'autre intervention, mais on les... Il nous reste encore un bon 20 minutes avant les conclusions de la directrice. Il y avait une question ?
Donc on a parlé tout à l'heure, enfin, rapidement, de l'associatif qui avait quelque part aussi un devoir de lobbying. Un lobbying associatif. Donc, je préfère le mot plaidoyer quelque part que lobbying auprès des institutions européennes ou des députés européens. Mais je me pose un peu la question de comment ça pourrait vraiment faire du poids parfois par rapport au lobbying privé. Voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment le monde associatif peut faire?
Facile. Il faut venir nous voir. Et on échange, on se tient au courant des initiatives qui sont aujourd'hui sur la table et vous devez nous faire remonter les besoins qui sont les vôtres. Et donc, il n'y a pas d'hiérarchie entre... moi, les privés, ils viennent nous voir. Il y a des gens qui ne sont pas de mon bord politique qui viennent me voir, bien entendu, et qui viennent... donner leur sensibilité. Quand je dis tout à l'heure, ben moi, la FMI, l'OECD, la Banque mondiale vient dans mon bureau, je leur dis pas non dehors. Je dis, ben venez dire ce que vous avez à dire. Et en plus, ils disent des choses qui m'intéressent. Donc, je prends pas tout, je prends ce qui m'intéresse. Mais j'ai eu les patrons d'ArcelorMittal qui sont venus me voir. Et alors, c'est très amusant parce que ils sont venus me voir parce que la Chine leur pose un problème de concurrence déloyale. Et donc, ils disent, de grâce, protégez-nous. Et je dis, ah, c'est génial, ArcelorMittal vient voir les socialistes pour se faire protéger. Mais c'est le monde à l'envers. Et je leur ai dit, vous savez, votre meilleur défenseur ici au Parlement européen, à ArcelorMittal, c'est une personne qu'ils détestent. C'est le responsable syndical de Florange qui a physiquement frappé le patron d'ArcelorMittal, qui est Édouard Martin, et... Alors, je suis pour la désobéissance pacifique. Mais à un moment donné, quand vous avez un patron qui vient vous dire en face que c'est normal qu'on licencie des milliers de travailleurs, il y a un moment donné, votre sang, il fait qu'un tour et il y a un moment où ça peut déraper. Eh ben, Édouard Martin, qui est un Français, qui fait partie de mon groupe, c'est celui qui défend le mieux la sidérurgie. J'ai tout simplement parce qu'il défend les travailleurs de la sidérurgie. Et c'est pour ça qu'on le fait, parce qu'on a besoin de secteurs tels que ceux-là, et donc si je le fais, c'est pas parce qu'ArcelorMittal est venu me voir, c'est parce que derrière, il y a des travailleurs. Mais par contre, le PPE et l'ALDE ne les soutiennent pas parce qu'ils ont dit « L'Europe, c'est plus une terre de production de ces vieilles industries. Ces vieilles industries, on peut produire aussi bien, mais beaucoup moins cher ailleurs. » Par exemple, exactement. Et donc, c'est paradoxal. Ces patrons, quand vous disiez les lobbies, ils viennent nous voir pour les défendre ici en Europe. Alors un jour, ça changera. Quand ils seront en Chine, ils iront voir le PPE pour les défendre, pour qu'ils viennent vendre en Europe. Donc je ne me fais pas d'illusions sur ça. Mais il ne faut pas avoir peur d'être en contact et de dire, tiens, vous êtes en train de travailler. Par exemple, on a travaillé, il y a eu une proposition de la Commission sur la société personnelle unique, sur la SPU. Donc de faire une directive européenne sur ce type de société. Ben, tout de suite, les syndicats sont venus nous voir en disant « Attention, si on fait une directive européenne, c'est les sociétés boîte aux lettres, c'est l'évasion fiscale, c'est le dumping, c'est... et donc vous ne pouvez pas accepter cette mesure-là. » L'associatif, sur la question du bénévolat et de la reconnaissance et des statuts des personnes travaillant aussi dans un secteur,
peuvent être aussi impliqués, mais aussi sur l'éligibilité de certains secteurs associatifs aux fonds structurels. Donc, si on a effectivement des discussions sur les fonds structurels, on sait que l'associatif sont dans le Fonds social européen, par exemple, qui sont acteurs de ces fonds. Et donc, on défend aussi ce rôle-là. Moi, sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, je travaille beaucoup avec les organisations syndicales, parce que sur la question de l'emploi, on est là-dessus, sur le work-life balance, sur les congés de maternité, paternité et autres, mais beaucoup sur le secteur associatif, sur tout ce qui est éducation sexuelle et reproductive des femmes. Aujourd'hui, en Europe, on est dans une vraie rupture par rapport à ça. Hein. Et pas uniquement en Pologne. En Italie, les clauses de conscience font que la pratique de l'avortement n'a plus lieu correctement en Italie. Donc c'est avec le tissu associatif qu'on travaille de manière importante. Donc le plaidoyer associatif est très important, et encore plus aussi sur toutes les matières qui sont les matières internationales, du commerce international par exemple. Toutes les mesures qu'on a, toutes les lignes qu'on a prises en matière de commerce international, excuse-moi tu bouges tes oreilles, ont plus été organisées avec le secteur associatif qu'avec les syndicats. Pourquoi ? Parce que les syndicats au niveau européen n'ont pas de ligne sur la question du commerce international. On a des syndicats allemands qui disent on préfère sauver notre peau de notre industrie allemande plutôt que penser Europe. Idem pour les Scandinaves. Et donc, on a beaucoup plus travaillé avec des organisations de paysans, des organisations CNCD 1111, on a beaucoup plus travaillé avec eux au niveau européen qu'avec le côté syndical, parce que c'était difficile d'avoir un point de vue syndical européen sur cette question-là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter.
Une autre intervention ou question ou réaction?
Ne pensez-vous pas que le social va de pair avec l'économie? Parce qu'on ne peut pas avoir un paradis économique sur un désert fiscal, sur un désert économique. Donc l'ouverture des frontières pour le libre-échange, je crois qu'elle est prématurée. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore compétitif par rapport à ceux qui ont vu leur intérêt chez nous. Donc ne pensez-vous pas qu'il faut attendre un petit peu pour ouvrir les frontières et essayer d'uniformiser d'abord l'Europe à tous les points de vue, pour qu'il n'y ait pas cette différence entre l'Est et l'Ouest?
Alors, donc, plusieurs choses, et sûrement tu rajouteras, donc plusieurs choses par rapport à ça. La première, dire qu'on n'est pas ouvert aujourd'hui, c'est faux. On a déjà une des économies les plus ouvertes en termes d'échanges du monde entier. Et donc dire on n'est pas prêt aux échanges, on est dans les échanges. C'est déjà le cas. Aller au supermarché et regarder les composants de ce que vous achetez, dire aujourd'hui on est déjà dans une société extrêmement globalisée et nos consommations sont déjà dans cette logique-là. La question c'est est-ce qu'il faut faire plus ? C'est là quelle est la question. Et nous pensons, mais je dois vous avouer que, encore une fois, on est dans un courant minoritaire, tant au niveau européen qu'au niveau national. Donc, tous les États aujourd'hui, il y en a qui sont un peu plus et d'autres qui sont un peu moins, mais aucun ne conteste des accords qui vont plus loin. Donc, nous sommes les francophones progressistes les plus contre. Pour aller plus loin. Et on dit tout simplement, aller plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner plus de pouvoir à des multinationales, mais pas forcément des multinationales américaines ou canadiennes ou autres, à des multinationales, tout court. Déjà, quand on dit multinationales, elles ne sont plus territoriales, ces multinationales, elles sont ailleurs. Elles peuvent être nées dans un continent, mais elles ont une radiation sur l'ensemble des continents. Et donc aller plus loin, ça veut dire leur donner plus à elles. Et quand on leur donne plus à elles, alors il y en a qui pensent, ça c'est la théorie du ruissellement, ça vaut aussi dans la coopération développement par exemple, il y en a qui pensent que plus on enrichit les riches, plus ça donne aux pauvres. C'est une fameuse théorie qui s'appelle, et c'est une théorie que les économistes utilisent, qui s'appelle la théorie du ruissellement, qui n'a jamais été prouvée, que du contraire, on voit qu'il y a l'effet complètement inverse, plus on enrichit des structures qui deviennent finalement des systèmes de monopole, moins il en reste pour les autres. Et ça, c'est prouvé en chiffres partout. Et donc, nous, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on devrait en donner plus à des sociétés qui, déjà aujourd'hui, ont tout ce qu'elles veulent, comme elles veulent ? Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin ? On n'est pas d'accord. Donc, on dit, si c'est d'accord, l'objectif, c'est de donner plus à celles qui donnent le moins aux autres, on ne voit pas ce que ça va rapporter. Si c'était des accords qui permettraient de revoir à la hausse des standards sociaux et environnementaux. On vient de signer la COP21 au niveau des objectifs en matière de réchauffement climatique et des objectifs environnementaux par rapport aux énergies et aux ressources. Et donc, il a dit que tout le monde était schizophrène, mais je pense qu'on l'est à des degrés divers. Mais je me dis, on ne peut pas signer la COP21 et en même temps faire un accord de libre-échange qui va faire qu'on va consommer beaucoup plus d'énergie pour consommer des biens. Et donc je me dis, je ne sais pas, moi, ce n'est pas très logique comme truc, je suis peut-être un peu bête, mais prouvez-moi que ces accords rencontrent les objectifs de la COP21. Il n'y a personne qui a réussi à me le prouver. Donc je dis, si vous me le prouvez, tant mieux. Si vous ne me le prouvez pas, ben on a signé la COP21, il faut choisir. Ou c'est la COP21, ou c'est les accords. Mais si c'est la COP21 et les accords qui viennent casser ce qu'on fait dans la COP21, ce n'est pas très intelligent. Et donc, idem pour les droits sociaux et environnementaux. Je lis les différents accords et je ne crois pas dans les miracles. Et on dit... cet accord, que ce soit l'accord canadien, l'accord CTTIP, l'accord avec l'Afrique, va faire en sorte qu'on ne va pas changer les normes et les standards. Donc on va rester avec des normes et des standards hauts. On ne va pas venir diminuer les droits des travailleurs. Donc on va rester avec des droits des travailleurs de bonne qualité. Mais en même temps, ça va permettre aux Européens d'avoir accès à des produits moins chers et ça va rapporter de l'argent de manière générale à tout le monde. Je me dis, nom d'une pipe, où est-ce qu'ils vont le trouver cet argent ? Si on ne diminue pas les normes, on ne diminue pas les salaires, qu'est-ce qu'il va faire ? On va ramener des produits qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, donc ça va coûter le trajet. Et on va les consommer ici, mais ça va nous coûter moins cher. Qu'est-ce qui va faire que ça va coûter moins cher ? Donc je pose la question, disant, expliquez-moi ce qui va faire que ça va coûter moins cher. On ne sait pas, mais c'est comme ça. Le commerce, on sait que le commerce est bon. Moi, j'ai arrêté de croire dans certaines choses parce que je ne voyais pas concrètement les choses, et donc je ne vois pas pourquoi je vais croire au commerce. Il n'y a pas de raison, si vous ne me prouvez pas que ça vient et de quels moyens ça vient changer les choses, je ne peux pas vous croire. Et on n'a pas ça. Et donc quand on dit est-ce qu'on est prêt ou pas prêt, ce n'est pas une question d'être prêt ou de ne pas être prêt, c'est juste une question, est-ce qu'il faut aller plus loin que ce qu'on a fait jusque maintenant ? Or, ce qu'on a fait jusque maintenant nous montre que ça ne marche pas. Parce que, comme je le disais, ça a provoqué la chute des salaires, ça a provoqué une explosion des consommations, des énergies et des ressources. Donc on ne peut pas dire que le modèle dans lequel on est soit un modèle soutenable. Réfléchissons ensemble à un modèle soutenable. Moi, je suis pour l'échange. Je trouve ça super qu'on puisse avoir des produits. On a fait un accord, malheureusement j'ai perdu. Mais bon, dans la vie, on ne peut pas toujours gagner. On avait un accord avec l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Donc l'Europe faisait un accord commercial avec l'Afrique australe, dans lequel il y a l'Afrique du Sud. Dans cet accord, l'idée est de dire il faut garantir les exportations de vin et d'agrumes et de bœuf de l'Afrique du Sud vers l'Europe. On produit des agrumes quand même en Europe. Pourquoi est-ce qu'on doit aller pomper l'eau de cette région qui est extrêmement touchée par El Niño et qui est complètement asséchée? Pourquoi est-ce qu'il faut aller pomper l'eau de ces gens qui n'arrivent plus à produire leur maïs? Le maïs a augmenté, il a fait x2 le prix du maïs dans tous les pays avoisinants de l'Afrique du Sud. Pour que l'Afrique du Sud puisse continuer à produire son vin, qu'il ne consomme pas parce qu'il est trop cher pour les Africains du Sud, et les agrumes. Donc on est en train d'assécher toute la région, des gens qui sont en train de crever de faim, pour que nous ayons des agrumes en Europe qui ne peuvent plus être produits par nos producteurs locaux parce que les agrumes africains coûtent moins cher que les agrumes européens. Donc il y a tous les Européens du Sud, de l'Espagne, l'Italie, la Grèce, qui dit « Mais nous, de quoi on va vivre ?» Il y a tous les Africains du Sud qui disent « On est en train de crever de faim. » Il y en a un qui s'enrichit dans cette histoire. Il y en a un qui s'enrichit, c'est celui qui fait l'exportation et l'importation d'agrumes. C'est l'intermédiaire qui s'enrichit. C'est celui qui vend dans sa grande distribution des choses qui payent moins cher à un moment donné. Mais est-ce qu'on est là pour... Moi, je boycotte la grande distribution. Alors, c'est dommage parce que je sais que tu es très attentif aux travailleurs de la grande distribution. Mais il faut qu'on... Pas qu'on les boycotte, mais qu'on dise à la grande distribution « Arrêtez d'appauvrir les gens, que ce soit les caissières ou que ce soit les producteurs. » La grande distribution, elle doit garantir le bien-être des caissières et des distributeurs. Et c'est là-dedans qu'on va... Alors, vous savez, j'ai fait la bagarre pendant 2 ans. Personne n'en a parlé parce qu'on était tous sur le TTIP et sur le CETA. Mais au moment où je suis arrivée au Parlement pour le voter, ils m'ont dit « Marie, arrête de t'énerver, il va passer avec une grande majorité parce que tout le monde est d'accord, parce que personne n'en a parlé. » On a quand même réussi à faire un vote à... Donc le Parlement européen, c'est 751 voix. Eh ben, il est passé à 400 voix contre 350. Et 350 contre, quand même. Donc c'était presque... Alors qu'il devait passer à une grande majorité. Donc on a réussi à sensibiliser pour dire « Attention, c'est des accords qui sont mauvais pour tout le monde. » Pas parce qu'on n'est pas prêt, mais tout simplement parce qu'ils sont mauvais. Donc on doit travailler plus dans cette optique-là. Voilà. Si on dit « C'est parce qu'on n'est pas prêt », ça veut dire que demain, quand on sera prêt à attaquer les autres, on va faire ce que les Américains essaient de faire à nous. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas là pour aller appauvrir, enfin, pour m'enrichir d'un côté et appauvrir des autres. Donc, il faut qu'on ait une logique et une cohérence. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas prêt, c'est juste parce que ce n'est pas juste, tout simplement.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une question? Oui, parce que le temps passe. Après ça, je te la remets. Et puis, Sylvie conclura cette journée par la suite. Mais allez-y.
En fait, ma question, c'est sur justement la majorité politique au sein de l'Union européenne. Parce que justement, voilà, il y avait Claude Rollin qui est du PPE et apparemment, c'est un peu un fourre-tout comme parti aussi. Donc, c'est difficile de se dire que s'il n'y a plus vraiment de gauche et de droite, mais qu'il y a des progressistes et plutôt des conservateurs, ce serait peut-être pas plus simple, en fait, à un moment ou à un autre, vu que je pense que ces partis PPE ou SD ont été inventés il y a longtemps, de redéfinir les lignes politiques des uns et des autres, parce qu'il se trouve qu'il y a peut-être certaines personnes du PPE qui peuvent aller plus du côté des progressistes, peut-être que c'est peut-être le cas de Claude Rollin, et d'autres, peut-être au sein de la gauche européenne, plus vers les libéraux, parce que, et là, il y aurait peut-être plus une majorité pour un plus grand progressisme sur les matières sociales.
Ouais. Alors ça se fait. Donc on a des glissements de gens qui se trouvent mal dans un groupe et qui disent « Voilà, je ne suis pas en ligne avec ce groupe. Même si mon pays estime que mon parti fait partie de ce groupe-là, moi je ne me sens pas bien avec ce groupe et donc je quitte et je vais dans un autre. » Donc ça se fait. Il y a des gens qui le font. Alors en termes d'homogénéité, les partis sont relativement homogènes. Claude est une exception du PPE. Donc, il faut, dommage qu'il n'est pas là, mais Claude est vraiment une exception du PPE. Je ne sais pas comment il survit. Franchement, je pense que le CDH devrait prendre une décision de ne pas rester dans le PPE, qu'il aille s'il ne veut pas venir chez les socialistes. Je peux comprendre que c'est compliqué de donner un message à l'extérieur de ses électeurs en disant je vais là plutôt que là, mais pour aller chez les Verts. Je sais pas moi, mais moi je veille à sa santé, quoi. Je me dis, je sais pas comment. Je sais. Non, de Claude, du CDA, c'est pas mon job, mais je sais pas comment, sincèrement, il survit. Alors, je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu l'Europe il y a 30 ans avec des chrétiens démocrates qui étaient des gens qui étaient dans le contrat social. Des chrétiens démocrates qui disaient, effectivement, il faut défendre la question de l'entreprise, et c'était l'esprit où il y avait ces deux tendances à l'intérieur du PSC à l'époque et du CVP à l'époque, et où il y avait ces deux équilibres-là, qui sont l'entreprise, bien sûr, mais le partage et la redistribution. Et moi, j'ai grandi dans ces équilibres politiques-là, qui sont de dire, mais même les socialistes ont toujours été dans cette logique, oui, à l'entreprise, mais cette entreprise pas en tant que fin en soi, mais comme outil de redistribution à un moment donné sur la population. Moi, c'est mon éducation. Quand je suis arrivée à l'Europe, je pensais retrouver cette réalité-là. Et donc, je rencontre mon collègue dans la commission dans laquelle je suis, qui est un PPE allemand. Donc, je dis, on va faire des accords. Moi je suis socialiste, toi t'es PPE, on a un peu les fibres qui sont des fibres de ce modèle rhénan qui est tout le monde profite de cette prospérité. La prospérité européenne, elle ne peut pas être le bien de certains, elle doit être partagée, cette prospérité. Why? Enfin, à la Wallonne. Je me suis retrouvée devant un radical de droite économique comme je n'ai jamais vu. Jamais de ma vie. Ici, on s'étonne que Chris Peters prenne la position au gouvernement d'un centriste. Mais là-bas, si vous avez le malheur de vous exprimer un tout petit peu moins à droite, vous avez des sanctions. Claude, quand il dit « je ne vais peut-être pas avoir le dossier compétences », parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous voulez travailler sur un dossier, vous devez demander à votre groupe politique. Et c'est votre groupe qui vous le donne. Mais il ne donne jamais un dossier à quelqu'un qui ne pense pas comme lui, ou en tout cas radicalement pas comme lui. Et donc, il n'a pas les outils pour travailler, tout simplement, parce que ça ne rentre pas dans la logique. Et donc, c'est vraiment un groupe qui est très homogène à ce niveau-là, avec quelques exceptions. Au niveau du social, des sociaux-démocrates, on est aussi un groupe relativement homogène. On ne fait pas partie, entre guillemets, des révolutionnaires de gauche. Non, enfin, je veux dire, moi, j'assume cette position. Moi, je suis pour cet équilibre entre économie et social. Je ne suis pas contre l'économie. Je suis contre une certaine forme d'économie, qui est une économie qui est, je dirais, malveillante. Mais je ne suis pas contre l'économie. Et ça, à l'intérieur du groupe socialiste et démocrate, on est d'accord avec ça. Alors avec, comme je le disais tout à l'heure, des histoires différentes en fonction de ce qu'on a vécu, mais on est d'accord pour dire que ce partage doit exister. Et c'est une des difficultés qu'on a par rapport à la gauche radicale, qui est radicale. Et donc, il y a un moment donné, quand elle entend le mot « économie », c'est automatiquement mauvais. Donc, on ne peut croire que dans l'existence du service public nationalisé et pas dans l'existence d'une économie bienveillante. Je trouve que c'est plutôt homogène. Il y en a quelques-uns qui s'écartent de temps en temps. Nous, on a eu une personne de notre groupe qui est partie chez les non-inscrits. Alors, comment tu peux passer d'un groupe socialiste vers les non-inscrits? C'est l'extrême droite. Hein. Ben, il s'était trompé à un moment donné. Il dit, qu'est-ce que je fous chez les socialistes? Moi, vous prenez des positions sur les migrants, sur les machins, je suis pas d'accord. Ben, le type, il s'est dit, moi, je pars, quoi, parce que je partage pas ce point de vue. Alors, on s'est dit, ouf! Mais ça, il y a comme ça des migrants politiques qui partent à un moment donné. Par contre, c'est vrai que sur des questions plus éthiques, par exemple, On a dans notre groupe, j'ai fait un débat par exemple avec un socialiste maltais sur la question de l'avortement, où ça c'était dur, parce que socialiste maltais, c'est non. Alors, donc sur les questions éthiques, c'est beaucoup plus compliqué de convaincre, parce que ça relève d'un autre champ. Il y en a quelques-uns, on a deux ou trois Italiens, un Maltais, des Polonais, où on a du mal à les faire venir sur des questions plus progressistes, éthiques. Nous, on est vu en Belgique, quand on parle de l'euthanasie des mineurs, du mariage pour tous, de l'avortement, on est vu comme des extraterrestres, certains. Mais voilà, il faut... Donc ça demande aussi du travail et pas de jugement. Encore une fois, je pense que quand on travaille à l'Europe, alors sauf si c'est vraiment des positions qui sont non démocratiques, et donc là, il faut qu'on soit clair, mais quand il s'agit de positions sur la question éthique qui sont aussi liées à des approches culturelles et des histoires différentes, on doit comprendre ce qui se passe et peut-être amener les gens... Il y a 50 ans en Belgique, sur la question du mariage pour tous, sur la question de l'euthanasie, on n'était pas très avancé non plus. C'est pas pour ça qu'on n'a pas aujourd'hui fait un certain nombre de pas concernant ces questions. Donc, si on juge l'autre, alors on ne peut pas avancer. Si on essaye de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et qu'on est en train de faire tout un débat sur la maternité pour autrui, c'est pas facile. C'est vraiment des débats. Moi, on n'a pas de vérité. On doit juste comprendre. Et qu'est-ce qui permet d'avancer pour l'un, pour l'autre, avec chacun. C'est sur l'éthique, j'aurais une approche qui est plus patiente par rapport à mes collègues. Par contre, sur la question économique, je ne suis pas du tout patiente. S'il y en a un qui a une attitude purement favorable à une économie malveillante, je trouve qu'on n'est pas là pour ça. Je dis alors, pas ailleurs, mais on n'est pas là pour favoriser une économie malveillante. Donc, voilà.
Eh bien, c'est clair. Voilà. Est-ce que je peux... Guy, avant de repasser la parole à...
Donc, je ne vais pas relancer le débat, mais je pense que ça a été évoqué plusieurs fois, une question sur laquelle à la fois les réécrire, mais aussi nos mouvements doivent vraiment s'atteler à réfléchir et avoir une vision, y compris européenne. C'est cette fameuse révolution numérique. Donc, ça a été évoqué. Alors, il y a à la fois du mythe et de la réalité. Il y a une réalité bien dur et bien cru, c'est les licenciements massifs dans le secteur banque-assurance, c'est l'explosion des petits jobs, des freelances liés à l'explosion de toutes ces applications numériques et autres, voilà. Mais donc il y a toute la transformation, cette véritable révolution industrielle. Je pense que là on peut pas ne pas le voir et pas imaginer que ça va bouleverser l'évolution du salariat, l'évolution du modèle social, et que on va devoir y compris intégrer cette dimension-là. Mais ça va aussi impacter, ça impacte aussi le domaine de la formation. Et donc, je pense que les réécrire doit aussi... Parce que c'est parfois là... Alors, il y a certainement plein de choses, de potentiel de développement dans l'e-formation, dans tous ces nouveaux instruments, et je pense qu'on les utilise aussi à les réécrire. Enfin, je l'imagine bien, mais on ne fera pas l'économie d'un groupe dans une classe en face à face avec un formateur. Si on veut maintenir, donc on peut évidemment imaginer voyager sur la trame, enfin sur le réseau, sur les réseaux virtuels, mais si on veut construire un mouvement social, on doit continuer à le faire. Or, j'ai parfois l'impression, quand je lis certains textes européens et autres, je dis, c'est quand même vachement moins cher, plus tough, plus moderne de mettre tous les moyens dans ces technologies qui sont en plus énergivores, quoi qu'on en pense. Voilà, donc c'est un peu une réflexion et des balises sur lesquelles je pense que notre mouvement doit réfléchir. Mais je ne voudrais pas relancer le débat.
Merci bien.